Bienvenue à tous dans le MAC de l'été.
Les œuvres d'art sont d'une solitude infinie et rien ne permet moins de les atteindre que la critique. Seul l'amour parvient à les saisir, à les soutenir et peut-être à leur rendre justice.
Quel est le texte que vous venez de nous lire, Woodkid ?
Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke.
Et pourquoi vous avez choisi d'entrer dans l'émission avec ce texte ?
C'est une phrase qu'a lue Catherine Deneuve dans le dernier concert en date que j'ai fait. J'ai eu le plaisir de l'avoir sur scène avec moi à New York, au Lincoln Center. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit pont à faire de scène à scène. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAC de l'été, le magazine culturel estival de vos débuts de soirée sur France Inter, un magazine cette année en itinérance sur les routes de France. Alors après notre virée au bord du lac Léman aux rencontres musicales d'Évian, nous avons pris ce matin la route pour Lyon jusqu'à la colline de Fourvière et c'est sur la terrasse du festival des Nuits de Fourvière que nous avons pris place. Dans ce ravissant jardin surplombant la ville et le théâtre antique aux rosiers et figuiers en Beaumont, habituellement à cette période, l'animation bat son plein. En effet, c'est ici que les équipes du festival et les artistes déjeunent et dînent joyeusement sur de grandes tablées entre deux spectacles. J'ai le souvenir de délicieuses soirées passées ici. Le silence des lieux nous rappelle à la triste réalité. Les Nuits de Fourvière ont été contraintes d'annuler leur édition. Une édition pourtant plus qu'alléchante, hein, où comme chaque année, pendant près de deux mois, musique, théâtre, danse et cirque devaient illuminer la ville et le cœur des Lyonnais. Le directeur des Nuits de Fourvière, Dominique Delorme, partagera avec nous en début d'émission son sentiment sur la situation et les possibles avenirs. Puis c'est avec Woodkid, l'un des grands invités programmés au festival, que nous nous consolerons jusqu'à 19h. Après son magnifique premier album, The Golden Age, paru en 2013, il a fallu 7 ans de réflexion à Johan Lemoine, alias Woodkid, pour ressurgir et nous enivrer à nouveau de sa pop électro-lyrique. Pale Yellow et Goliath sont les deux somptueuses mises en bouche d'un album qu'on découvrira à l'automne. Nous sommes très heureux, Woodkid, de vous accueillir dans le MAC de l'été.
France Inter. Le MAC de l'été. Anna Sigalevitch.
Bonjour Woodkid.
Bonjour.
Bonjour Dominique Delorme.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur France Inter dans le MAC de l'été. Alors Dominique Delorme, on devrait être en ce moment exactement au mi-temps, enfin un peu plus du festival Les Nuits de Fourvière que vous dirigez donc depuis 2003. Qu'est-ce que vous ressentez tout simplement en cette première année depuis 17 ans où le festival n'est pas ?
Eh ben, d'abord, merci de nous rendre visite parce qu'il se passe rien.
Et vous venez avec vous fait une animation.
Et vous venez avec toute votre équipe. La terrasse est vide. On dîne et on déjeune entre nous. On imagine ce qui pourrait se passer. C'est un peu une ambiance étonnante. Hein. Il y a un petit côté, on peut le dire, science-fiction. Hier soir, par exemple, on a fait le concert de Pomme, comme ça, uniquement diffusé, sans public, sans spectateurs. C'est très étonnant. C'est difficile de savoir quoi en penser. C'est une parenthèse. Comment on la met à profit? Ça a été très compliqué le moment de la décision, bien entendu. Ça, c'est bien connu de toutes ces
devoir
situations.
Annuler ou pas ça, c'est une vraie question parce qu'on a vu quand même beaucoup d'annulations puis de désannulations, hein, si vous me permettez ce néologisme. Vous avez choisi de ne pas désannuler. D'abord, est-ce que c'est par impossibilité ou est-ce que c'est par choix de refuser un festival un peu de briquet de broc au rabais et finalement de prendre une décision radicale? Cette année, il n'y aura rien pour revenir l'année prochaine. Mieux encore, Dominique Delorme.
Alors, d'abord, personne n'a annulé. On nous a empêchés de faire les festivals, on nous a interdit de faire les festivals, à juste titre.
Oui.
Mais les annulations, elles ont été prises au moment où on ne pouvait plus monter. Quand le Printemps de Bourges, puisque c'est le premier à annuler, c'est le jour où devait commencer le montage. Effectivement, c'est un peu avant. Nous, on a annulé. Alors d'abord, on a essayé de bricoler quelque chose, puisque le premier confinement se terminait le 15 avril, le montage commençait le 27 et le festival le 1er juin. Donc on a travaillé sur un bricolage. Et puis après, quand ça a été interdit jusqu'au 15 juillet, on a dit c'est annulé. Et c'est impossible de déplacer un événement de deux mois avec 103 productions, 500 salariés.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui se sont un petit peu, des petites formes qui ont émergé. Vous avez le choix, vous avez fait le choix de ne pas faire ça.
Oui, on pouvait pas bricoler un
voilà.
festival,
c'était
pas possible.
Parce que c'est un festival aussi de très grande envergure. Il faut rappeler que dans sa pluridisciplinarité, il est assez unique en France, hein, parce que, bon, pluridisciplinaire, il y en a plein des festivals en France, mais pas comme vous, où il y a vraiment autant des choses très très haut de gamme qui sont en musique classique, avec, je sais pas, la 9e de Beethoven, Roberto Elania et Alexandra Kurchak qui devaient venir, des grands artistes comme Woodkid, Alain Souchon, de la danse avec Joseph Nadj, du théâtre avec les TG Stan, Peter Brook, je veux dire, c'est des choses qui sont aussi lourdes à aménager. Là, j'ai une question là-dessus. Dans cette pluridisciplinarité, quelle est l'identité, Dominique Delorme, du Festival des Nuits de Fourvière?
Bah d'abord, c'est un festival de spectacle vivant qui inscrit cette pluridisciplinarité depuis son origine. C'est-à-dire que c'était l'acte fondateur en 1946, quand même. Dans une période intéressante, puisque c'était juste après la guerre, en grande période de crise économique, il y avait encore les tickets de rationnement. Et l'important, c'était de réunir la population autour des œuvres de spectacle vivant dans ce patrimoine archéologique fondateur de la cité. Donc aujourd'hui, l'avenir du festival se pose un petit peu dans les mêmes conditions, dans une situation un petit peu identique. On est en situation de crise. Où est-ce qu'on met la culture et l'art dans ce moment de crise? Est-ce que c'est une chose annexe ou est-ce que c'est au centre de la constitution de la société et de sa réflexion sur qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait?
Et voilà. Alors, est-ce que vous, ça vous donne justement envie d'être encore plus ambitieux, encore plus audacieux, ou est-ce que vous êtes contraint de repenser ce festival de façon plus, comment dire, plus réaliste économiquement, je sais pas.
Non. Alors, on n'a pas, d'abord, on n'a pas envie d'être light du tout.
Ouais.
On a un appétit pour les artistes qu'on rencontre. C'est un petit peu le problème du festival. C'est-à-dire que l'identité du festival, elle repose sur la fidélité à des artistes. Si vous regardez le programme sur ces 18 dernières années,
les gens
vous voyez qu'ils
viennent,
ils reviennent et on accompagne les créations, les productions, les nouveaux spectacles. Nadj devait créer ici, par exemple, entre autres. Et donc c'est ça qui fait l'identité. Mais quand vous accompagnez les artistes, il y en a de plus en plus qui viennent. Et puis ils restent.
Il y en a des nouveaux.
Et ils restent.
C'est ça le problème.
Donc c'est forcément de plus en plus gros. Je vois, le directeur technique de temps en temps, il fait des gros yeux en disant mais où on va les mettre? Comment ça va se passer? Mais voilà, donc on est dans cette
logique-là. Woodkid, vous êtes lyonnais d'origine. Absolument. Est-ce que le festival Les Nuits de Fourvière ont compté dans votre construction aussi artistique quand vous étiez enfant ou adolescent quand vous habitiez ici?
Adolescent, parce que surtout que j'habitais rue de Trion, deux rues au-dessus. Là. Donc c'était vraiment mon univers, mon environnement. On venait tous les étés. Voilà, donc oui, ça fait partie de Lyon, ça fait partie de notre culture. Ouais.
Il y a des artistes importants dans votre histoire personnelle que vous avez découvert ici?
Très bonne question. Récemment, c'est marrant parce que Christine and the Queens, c'était quelqu'un qui a... C'est pas à l'époque, c'est récemment. J'ai eu un concert assez choc de venir la voir ici. C'était il y a quoi? Il y a 5 ans. Je suis revenu à Lyon et j'ai emmené mes parents parce que Christine avait fait mes premières parties à l'époque, etc. Puis elle a décollé. Et en fait, de revenir ici, je sais pas, il y a eu un truc très, très émouvant de voir qu'à un moment, il y avait tout un spectre d'artistes autour de nous, de moi, de tout ce qui évoluait autour de nous qui pouvait revenir ici dans le berceau de là où j'ai grandi. Et puis voilà. Donc c'était très émouvant.
Et le premier passage de Woodkid ici, c'était en 2013. Ouais, c'était un concert mémorable avec l'Orchestre National de Lyon.
C'est vrai.
Un grand, grand moment.
Pas rien. Alors, Woodkid, vous étiez censé jouer ici, demain. Est-ce que...
Demain?
Oui, c'était demain. On a regardé le programme. Est-ce qu'on va vous retrouver l'année prochaine ici?
Ah oui.
Oui. Dominique Delorme, la programmation des artistes prévus cette année, on va la retrouver en partie l'année prochaine?
80%. Alors pour l'instant, ça se télescope un peu parce qu'un festival, ça se prépare sur plusieurs années quand on accompagne les artistes. Mmh. Donc il y en a qui étaient prévus déjà depuis un an pour
l'année
21.
Prochaine. Bien sûr.
Donc il a fallu resserrer un peu toutes les cases et pouvoir accompagner tout le monde. On aura à peu près 80% des spectacles prévus cette année et des artistes invités qui seront là l'année prochaine.
Merci beaucoup, Dominique Delorme.
Woodkid sera là deux soirs.
Deux soirs, voilà. C'est une année qu'on double.
Incroyable, non?
Parfait. Merci beaucoup, Dominique Delorme. On vous souhaite le meilleur, donc, pour les éditions à venir. Et on reste avec vous, Woodkid, jusqu'à 19h sur France Inter pour fêter votre retour musical.
Hey. Just make the liquor flow. Pale yellow, as my heart races, I wanted you to know. I will rise again, so
le Mac de l'été, une playlist France Inter que nous avons la joie d'écouter en présence de l'auteur, Woodkid, avec nous jusqu'à 19h en direct de la terrasse du Festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Vous deviez donc vous produire demain soir. Alors Pale Yellow, c'est l'une des deux chansons qui sont déjà disponibles, qui font partie de votre nouvel album qui paraîtra à l'automne, Woodkid. Pale Yellow, jaune pâle, c'est donc ce liquide douloureux comme une sorte de poison qui doit sortir, dont on doit libérer son corps prisonnier de une sorte d'addiction, une addiction chimique, une addiction douloureuse, ouais. Amoureuse.
Ça, j'aime Woodkid. L'idée que ça puisse être lu de plein de manières, oui. Ouais. Il y a toute une espèce de mythologie que je suis en train de mettre en place autour de l'album, autour du soufre, sur l'idée d'un élément qui est aussi toxique, qu'il est fondateur de la vie. Donc, il y a cette
organique
idée.
Ouais, et voilà. Toxique.
Organique, minéral à la fois, très ambigu, très très riche en termes de symbolique. Donc voilà, Pale Yellow, comme le soufre, comme plein de choses, comme le Xanax, comme le pu, comme plein de trucs
c'est
hyper
ça, comme
sympas,
le pu.
Très estival. Mais
alors,
voilà.
C'est comme votre casquette, qui est jaune aussi.
Absolument, c'est mon truc en ce moment, je suis très jaune.
Alors, c'est une chanson qui est extrêmement complexe et sophistiquée dans sa construction et dans sa fabrication. Hein. Vous avez enregistré des bruits de machines du sculpteur Jean Tinguely à Amsterdam. Vous avez utilisé un procédé particulier, le gate, qui permet de filtrer la voix selon ses dynamiques avec une voix d'opéra. C'est à peine perceptible, Woodkid, à la première écoute. Mais est-ce que ce sont des subtilités qui sont fondamentales pour vous dans le processus de création d'une chanson?
En fait, je crois que je suis tout autant passionné par le procédé que par le résultat. En fait, je crois que vraiment la grande histoire d'amour de ma vie, c'est de créer des choses.
Donc en fait de faire.
Voilà, donc en fait, il faut pour moi, pour que je sois heureux, il faut que dans la manière de faire, il y ait du détail, de la complexité, il y ait
de la recherche, de l'expérimentation,
c'est
Alors, votre musique, Woodkid, elle provoque des sensations fortes tout de suite. Hein, on la reçoit immédiatement. Vous avez une voix incroyable, un univers qui est très très fort. Mais c'est une chanson une musique dont on ne perçoit pas du tout tout à la première écoute. Est-ce que vous faites des chansons pour qu'il y ait aussi des choses un petit peu secrètes, une lecture et une sous-lecture et une première écoute, une deuxième, une troisième, une quatrième possible, avec des découvertes prévues et possibles à chaque fois? Est-ce que vous avez ça en tête?
Je ne sais pas si je le calcule, mais j'adore cette idée. J'adore l'idée du mystère. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où tout est assez explicite. J'adore l'idée des deuxième, troisième, quatrième, cinquième degrés de lecture. Je sais pas, peut-être que c'est des vraies prises de risque un peu commerciales, même si je me pose pas trop ces questions-là, mais j'aime l'idée j'aime l'idée de cette espèce de jeu de piste qu'il y a à travers ma musique, que les choses ne soient pas forcément évidentes, qu'elles soient un petit peu demandantes aussi, parfois, à l'écoute, ça j'en ai conscience, mais en même temps, je crois que je serais malheureux si je faisais une musique qui était trop littérale au premier degré, je pense.
Ou explicite.
Explicite, ouais.
Alors, il y a un compositeur que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Philip Glass.
Jamais entendu parler.
Compositeur minimaliste américain dont on a qualifié la musique comme répétitive.
Ouais.
On l'écoute parler de son processus créatif.
Si je répète un thème cinq fois, la deuxième fois c'est différent que la première fois, la troisième c'est différent de la deuxième, la quatrième c'est différent de la troisième. Pour moi, chaque moment de la musique, c'est un moment unique. Pour moi, c'est une musique sans histoire, c'est une musique pleine d'émotions, mais pas une émotion de narrative.
Le compositeur Philip Glass, en 1976, au micro de Denis Bourgeois, vous êtes sur France Inter dans le Mac de l'été, en direct de Lyon, en compagnie de Woodkid. C'est un petit peu aussi, Woodkid, me semble-t-il, votre fonctionnement, pas du tout dans cette logique de musique minimaliste, mais de juxtaposer, d'associer des sonorités et des mots, et puis c'est ensuite à l'auditeur de composer sa propre histoire.
Oui, il y a après Philip Glass, je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que c'est vraiment mon maître à penser. Mais oui, il y a cette idée du jeu. Il y a quelque chose sur la répétition dans ma musique, alors qui est peut-être pas aussi minimaliste que les grands compositeurs des années 70 américains, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est cette idée qu'une boucle peut se répéter sans se répéter à la fois. C'est-à-dire qu'elle est, en termes de partition la même, mais il y a dedans la variation de l'humain. À l'époque, Philip Glass, il construit la répétition par de l'humain pour mimer la machine, ou en tout cas challenger la machine, ou en tout cas.
Ce qui est très présent dans votre musique.
Mais à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'utilise la machine pour recréer l'illusion de l'humain. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a presque une espèce de rapport à inverser.
Et vous construisez d'ailleurs assez peu vos chansons de façon binaire, avec couplet-refrain, mais il y a plus l'idée souvent d'une sorte de montée dramatique.
Oui, parce qu'il y a peut-être du cinéma dans ma musique aussi un petit peu. Je comprends pas trop ce qu'il dit. Faudrait que j'écoute cette. Il parle de la narration. Je suis pas sûr de saisir le contexte, mais.
Mais il dit qu'il veut pas justement faire de musique narrative.
Oui. Alors que moi, je crois que j'en fais un tout petit peu. Peut-être qu'on est. J'aime l'idée que la musique raconte une histoire par. J'aime, pour moi, une séquence d'accords raconte une histoire. forcément par tout ce qu'elle contient dedans.
Parce qu'elle contient musicalement. Ouais. Alors vous réalisez les clips de vos chansons, Woodkid. Vous êtes connu aussi pour avoir réalisé les clips de beaucoup de gens, hein, de Lana Del Rey, de Rihanna, de Katy Perry, entre autres. Là, il y a une particularité, me semble-t-il, dans cette chanson, c'est que c'est vous qui apparaissez dans ce clip. Et comment apparaissez-vous ? Vous apparaissez seul, il y a une caméra qui tourne autour de vous et qui rentre même à l'intérieur de vous, Woodkid.
Alors, il faut savoir que c'était un clip qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que, voilà, un effet du confinement, je m'étais embarqué, évidemment, dans un espèce de projet titanesque autour de cet album, et puis le virus est arrivé, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mes ordinateurs à la maison, et puis j'ai travaillé sur ce clip avec mes ordinateurs en 3D. Je travaillais depuis quelque temps déjà sur l'idée, le trouble que pouvait créer l'idée de la recréation de moi-même dans cet espace digital. Donc j'ai travaillé autour de ça, sur cette espèce d'avatar 3D digital qui est mi-homme, mi-machine.
Parce que quand on rentre à l'intérieur de vous, c'est effectivement comme un robot, comme un clone de vous-même.
Oui, comme quelque chose d'industriel. C'était l'idée. Si mon premier clip de Goliath qui invoquait ces énormes machines.
Oui, qui se passe dans une mine.
Des énormes excavatrices qui dévorent la planète, etc. C'était une vision qui m'avait choqué la première fois que je l'ai vue. J'avais envie de la montrer. Là, j'avais plutôt envie de parler de la machine intérieure. Parce que ça parle des procédés d'addiction, de dépendance et de résilience.
Et dans ce clip, comme dans Goliath, la couleur apparaît.
Oui.
Ça, c'est la première fois aussi pour vos chansons.
Oui, il n'était pas question pour moi de revenir 7 ans après avec encore un album autour du noir et blanc. Ça n'a même pas été une question pour moi.
Alors, la première chanson qu'on a pu découvrir, c'est Goliath.
Oui.
Goliath, donc, c'est ce géant philistin dans la Bible qui est vaincu par le jeune berger David, voilà, qui a provoqué pendant des semaines l'armée d'Israël et puis finalement qui est battu par ce jeune berger. Qui est ce Goliath aujourd'hui pour vous?
Il est beaucoup de choses. Je crois qu'il est surtout intérieur. Je crois que c'est un Goliath de l'intime. Pour moi, je crois que l'album, bon, les gens le découvriront, l'album parle de ça. L'album parle du doute.
Et du doute. Mais Goliath, c'est aussi le rapport à l'humilité. C'est ce que raconte l'histoire de la Bible.
C'est un truc important chez moi. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. C'est un sujet à vaincre, à dompter. Pourquoi ces fascinations constantes pour ces échelles-là? Ça, c'est des choses, j'ai toujours pas répondu à ça dans ma vie. Donc, je les explore et puis je les questionne comme ça, à travers ma musique, mes vidéos, mon travail, quoi.
Alors, dans ces deux morceaux, donc, vous parliez de résilience, il y a en effet cette idée de dépassement, de se relever, d'avancer. C'est vraiment la dynamique qui a nourri l'album.
Ouais, c'est un album, pour être très honnête, c'est un album qui a été très difficile à faire.
On sent qu'il est chargé.
Il est très chargé. Je referai pas. Ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'il advienne dans le futur, je referai pas un album de cette manière-là. Je sais pas pourquoi. Les choses se sont alignées d'une manière vraiment très douloureuse parfois. C'est contextuel, c'est politique autour de mon label, de mes équipes, de la manière dont moi j'ai traité mes équipes, de la manière dont je me suis traité moi-même, d'une certaine pression, d'une peur de l'absence, d'une peur de l'oubli, toutes ces choses-là. Et au milieu de ça,
aussi une pression énorme, peut-être que vous.
Oui, une pression beaucoup surdimensionnée, quand on parle de ces échelles-là. Ouais, et ça, au milieu de tout ça, à un moment, dans le studio, dans la voix, des espèces de moments d'illumination, de me dire en fait, ma vie, c'est ça. En fait, ma vie, c'est cette musique-là. C'est ce que j'ai besoin de faire. Et là, d'un coup, émerge de la lumière dans tout ça. Donc ça, c'est.
Oui,
ça,
parce qu'il y a plein de lumière. Enfin, les deux morceaux, en tout cas, ils donnent beaucoup d'énergie.
Ça marche. L'un ne marche pas sans l'autre. Oui, l'un ne marche pas sans l'autre.
Alors, Woodkid, donc le garçon de bois, c'est le nom que vous avez choisi. Il y a un moment maintenant, étiez beaucoup plus jeune. Eh oui, mais est-ce que ça vous va de vous appeler toujours Woodkid aujourd'hui?
Absolument pas.
Johan Lemoine.
Absolument pas. Ça n'a aucun sens.
C'est vrai. Ouais,
j'aurais peut-être un jour 60 ans sur scène et les gens m'applaudir en tant que Woodkid, ça n'aura vraiment aucun sens. C'est quand même un tatouage de jeunesse, quoi.
C'est-à-dire c'est que, vrai,
bah oui, oui, on peut pas l'enlever, c'est comme ça. Je m'appellerais Johan Lemoine si je pouvais.
Votre univers, Johan Lemoine, je vais vous appeler comme
allez,
ça pour
l'émission,
et il est peuplé de fantômes, il est peuplé de plein de choses qui sont assez chargées.
Ouais.
Vous êtes tout jeune, vous avez 35 ans, quand je vous vois là en face de moi, vous êtes extrêmement frais, mais en même temps, quand on écoute, qu'on découvre votre univers, votre musique, vos chansons, tout ça, moi j'ai le sentiment que vous êtes une vieille âme, c'est-à-dire que vous avez déjà, que votre corps a été, que votre âme a déjà habité plusieurs corps. Est-ce que c'est complètement délirant ce que je dis, ou est-ce que vous avez l'impression d'être une vieille âme ?
Peut-être, je sais pas ça, je sais pas, c'est peut-être quelque chose même dont je souffre, j'ai l'impression que je me prends beaucoup trop au sérieux très souvent. Dont je souffre.
Que si vous vous posez la question,
c'est un certain poids, en tout cas, ça a une résonance. Ce qui est sûr, c'est que je crois que quand je chante, je me demande parfois s'il n'y a pas quelqu'un qui chante à travers moi.
Ah, des D-books. Bah, c'est ce que j'ai pensé, moi, aux D-books. Donc, les D-books, c'est les petits êtres malins dans la religion juive qui entrent dans les corps.
Okay.
C'est des morts, c'est des esprits qui sont souvent un peu démoniaques. Et moi, je me suis demandé, j'ai pensé aux D-books.
C'est ça que j'ai vous
écoutant.
Je vais voir un docteur, c'est ce que je fasse.
Oui, alors c'est un peu compliqué. Il faut les faire sortir soit par le nombril, soit bon, ça je vous expliquerai après l'émission. Voilà, alors vous dites Johan Lemoine,
mais je peux me chanter après si je le fais sortir, qu'est-ce qui se passe, faut qu'on m'explique, je vais vivre avec, qu'est-ce que...
Vous dites que vous êtes très influencé par votre mère qui est d'origine juive polonaise.
Ouais. Enfin famille de ma maman.
La famille de votre mère. En quoi ces influences infusent, je ne sais pas, votre œuvre ou ce que vous êtes?
Non, ce qui influence vraiment, parce que la famille du côté de mon père est d'ici, mais
oui.
C'est surtout qu'en fait, j'analyse petit à petit pourquoi c'est des vraies choses qui trottent dans ma tête. C'est qu'en fait...
La guerre, enfin, il y a quand même
oui,
la
c'est
mort.
Qu'en fait, la vision de la famille que j'ai, elle est soit complexe du côté de mes parents, ou elle est dans des effusions d'amour surdimensionnées quand la famille polonaise rentrait en France ou venait en France ou qu'on allait en Pologne, sur des gens qu'en fait on voyait assez peu et qui étaient des effusions d'amour mais surdimensionnées, et nous enfants on se prenait ça et on pleurait tous, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait ces extrêmes en fait complètement dramatiques autour de moi, et donc cette identité là elle me questionne beaucoup, parce que je crois qu'elle est en fait à l'intérieur de moi. Je sais pas pourquoi, comment, je crois qu'il y a quelque chose.
Et musicalement par exemple, je sais pas, je pense à des gens comme Mahler, comme Schoenberg, il y a du post-romantisme beaucoup dans votre premier album.
Et pourtant, c'est pas ma culture. Enfin, comment dire? C'est pas que c'est pas ma culture, ça l'est devenu. C'est des compositeurs auxquels je me suis intéressé par la suite, mais j'ai pas grandi avec cette musique-là. J'ai pas grandi avec la culture juive polonaise. C'est des choses qui j'aime bien cette idée qu'il y a des choses qui vivent sans qu'on s'en rende compte à travers soi, qui sautent les générations. J'ai eu des rêves quand j'étais gamin, longtemps. Je rêvais de train. C'était un truc constant. Je voudrais pas faire de raccourci, mais c'est un truc qui est un rêve récurrent que j'ai fait pendant très longtemps quand j'étais gamin.
Woodkid, nous avons pour habitude dans le Mac de l'été de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités.
Ah.
Est-ce que vous acceptez de vous prêter au jeu ?
On y va.
Woodkid, si vous étiez un son.
Ah, un gong, tiens, voilà, c'est très bien ça.
Si vous étiez un animal.
Ah, un chat.
Préférez-vous avoir raison seul ou tort au sein d'une collectivité?
Ah, oulala, c'est dur ça. Raison seul ou... Raison seul peut-être.
Si vous étiez un personnage de film, Woodkid.
Ah... Oh là là, c'est dur ça. Ça, c'est très très dur.
Vous pouvez prendre un peu de temps.
Un personnage de film, Scarlett Johansson dans Under the Skin.
À quelle forme d'art ne pourriez-vous pas renoncer?
Ah oh là là, la question. La réalisation, je crois.
Lumière ou obscurité?
Ah, lumière.
Woodkid, êtes-vous un ami pour vous-même?
Non.
Quel espoir avez-vous abandonné?
Fou, c'est deep votre truc là. quel espoir j'ai abandonné? Peut-être celui... quel espoir j'ai abandonné? Celui de vendre des millions et des millions et des millions d'albums?
Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est pas vrai. C'est pas ça votre espoir. Si?
Enfin, non, pardon, je ne dois pas contester les réponses, excusez-moi.
Vous n'avez pas le droit, c'est pas le droit.
Pardon, excusez-moi.
Non, en plus, vous avez raison. Ouais, je ne sais pas, on verra. On reviendra là-dessus.
Woodkid, de quoi êtes-vous reconnaissant?
Ah, de la chance.
Il est 18h48 sur France Inter. Nous sommes à Lyon en compagnie de Woodkid et on écoute un morceau extrait de votre premier album, The Golden Age, Run, Boy, Run.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Right is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run. It's time to run.
Run, boy, run de Woodkid, notre invité jusqu'à 19h dans le Mag de l'été en direct de la terrasse des Nuits de Fourvière à Lyon. Et c'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mag de l'été.
Un livre, ça sert à quoi? Un livre, c'est une aventure que tu vis sans bouger.
Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse lancée par le ministère de la Culture s'ouvre aujourd'hui. Et cette année, cette 6e édition aura lieu en ligne. Les événements numériques sont répertoriés sur le site du festival, activités à faire chez soi, lecture à distance, opérations solidaires autour du livre, sélection de livres, de quoi faire le plein de lectures pour l'été. Alors, le festival se passe aussi sur les réseaux sociaux et vous donne rendez-vous tous les jours à 16h sur le compte Instagram de Partir en Livre pour des discussions en direct. Demain, par exemple, live Instagram autour des héros des livres jeunesse avec l'auteur de la série de bande dessinée Les Légendaires, Patrick Sobral, et les autrices jeunesse Stéphanie Blake et Gwenaëlle Barusso qui répondront aux questions des internautes en direct.
Son origine nordiste est un élément clé du parcours et de la personnalité de Marcel Gromaire. L'homme reste très attaché à son village natal, Noyelles-sur-Sambre.
À Roubaix, on plonge dans l'exposition consacrée à Marcel Gromaire à la Piscine, le musée d'art et d'industrie André Diligent. Une exposition monographique qui embrasse toute la carrière du peintre originaire du Nord, reconnu de son vivant comme une référence de l'art moderne. Marcel Gromaire, en quelques mots et images, c'est l'attachement à son village natal, le traumatisme fondateur de la Grande Guerre, une palette simplifiée et des volumes géométriques, un art entre rigueur cubiste, expressionnisme et réalisme. Ami de Matisse, professeur de la sculptrice franco-américaine Louise Bourgeois, porte-parole de l'art indépendant des années 20 aux années 50, Marcel Gromaire, c'est tout cela à la fois. Ouverte quelques jours seulement avant le confinement, l'exposition est prolongée jusqu'au 20 septembre.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La dernière représentation de la Traviata commencera dans 30 minutes. Début de la représentation dans 30 minutes.
Depuis quelques années, l'Opéra de Paris propose avec la troisième scène des cartes blanches à des réalisateurs ou metteurs en scène pour des créations vidéo au croisement de plusieurs arts. C'est dans ce cadre qu'ont vu le jour quatre courts-métrages signés Sergueï Loznitsa, Karim Moussaoui, Julie Deliquet et Jafar Panahi, réunis sur le titre « Celle qui chante ». Et pour la première fois, cette création troisième scène de l'Opéra de Paris sort en salle aujourd'hui. On écoute Philippe Martin, le directeur artistique de la troisième scène, nous en parler. Bonjour Philippe Martin. La troisième scène, c'est un peu la scène virtuelle, je dirais, de l'Opéra de Paris, sur laquelle il y a beaucoup de films que vous avez commandés. Alors là, elle prend une dimension un petit peu particulière, puisque parmi tous ces films, vous en avez choisi quatre que vous avez mis ensemble et qui forment un film qui s'appelle « Celle qui chante ». Alors, est-ce que ce film, vous aviez en tête un film, ou est-ce que c'était vraiment au départ quatre films complètement indépendants, Philippe Martin?
Au fond, c'était quatre films indépendants. J'ai proposé à quatre cinéastes de faire un film. Et il se trouve que ces quatre cinéastes ont eu envie d'évoquer la voix dans leur pays, la voix à notre époque, la voix à d'autres époques. Et quand j'ai vu ces quatre films, je me suis dit au fond que tout leur sens se trouvait en se voyant les uns après les autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de composer un programme autour de la voix. Confronter ces quatre films, c'est un peu dire la place de la voix dans notre époque, dans notre société, et c'est parler de la voix d'un point de vue politique, ce qu'on fait au fond assez rarement. Sergueï Loznitsa, il évoque la voix à l'occasion d'une soirée de gala qui reconstitue au Palais Garnier à partir d'images d'archives, et on voit défiler tout ce qu'on peut imaginer de mondanité, d'hommes politiques, de têtes couronnées de l'époque. On s'est plongé dans ces images d'archives et on a trouvé des choses vraiment stupéfiante en fait, et surtout ce qui est incroyable, c'est de voir le faste de ces soirées dont on n'a plus idée maintenant. On voit apparaître Brigitte Bardot au bras de Sacha Distel, on voit apparaître Sacha Guitry, on voit apparaître Michel Morgan, on voit apparaître Grace Kelly, on voit apparaître la reine d'Angleterre, on voit apparaître la reine de Suède, on voit apparaître le général de Gaulle, on voit apparaître Pompidou, enfin c'est vraiment toutes les années 50 et 60 en fait, hein, aussi bien politique que people.
Et ce qu'on voit, c'est la place qui est donnée à une chanteuse parmi donc tout ce parterre d'une mondanité extrême, et tout d'un coup Maria Callas qui ouvre la bouche sur scène et qui chante, on la voit, elle est toute petite et en même temps elle remplit absolument tout l'espace.
C'est la force du film au fond, c'est de dire bah voilà, vous avez l'impression de voir ce qu'il y a de les gens qui ont le plus de pouvoir au monde, et puis en fait on se rend compte que tous ces gens ne tendent que vers une chose, qui est d'écouter celle qui a vraiment le pouvoir, Callas, celle qui va vraiment les fasciner totalement. Et c'est une image d'archive qu'on a trouvée de Callas qui chante un air du Barbier sur la scène de Garnier en version concert, qui est une image absolument incroyable.
Alors le pouvoir de la voix à ce moment-là, mais ce dont on se rend compte au fil donc de ces quatre films, c'est que le pouvoir de la voix et la place de la voix diffèrent radicalement selon les cultures et selon les sociétés. Les voix de femmes, hein, il faut dire que ce sont toujours des femmes qui chantent, Philippe Martin.
C'est ça qui nous a donné envie de réunir ces films. C'était comme une façon de parler de la voix, mais presque d'un point de vue politique. Voilà, c'était dire, la voix, à un moment donné, c'était la valeur ultime, c'est-à-dire que rien n'était plus beau que d'aller écouter Maria Callas à l'opéra. Et aujourd'hui, Jafar Panahi raconte comment une femme qui a une voix exceptionnelle est interdite par les autorités religieuses de chanter, parce que cette voix pourrait mettre en danger la religion. Et ça, c'est tout à fait incroyable d'imaginer ça. Et pourtant, c'est vraiment ce que raconte son film, et qui est tout à fait réel.
Quels critères font que vous avez envie d'aller vers un metteur en scène qui a réalisé ou pas, hein, d'ailleurs, des films? Qu'est-ce qui fait que vous dites, tiens, cette personne a peut-être... Je sens qu'elle pourrait faire quelque chose pour la troisième scène.
Bah en tout cas, c'est pas son affinité avec l'opéra. C'est-à-dire que, par exemple, ces quatre cinéastes-là n'ont vraiment aucun lien avec l'opéra. Donc c'est plus une la curiosité que je peux porter vers leur travail et de me dire, tiens, et si jamais tout d'un coup, ils réfléchissaient à cette question liée autour de cette forme d'expression qu'est l'opéra, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Voilà. Et quand tout d'un coup, vous avez cette idée et que vous la confrontez à un nom, de temps en temps, ça fait tilt. Vous dites, ah oui, là il peut vraiment se passer quelque chose.
France Inter. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Woodkid, est-ce que le cinéma donc vous intéresse beaucoup, on le sait, est-ce que ça pourrait vous intéresser, une forme comme ça, la troisième scène?
Oui, en plus, on en a déjà parlé avec l'opéra. Je suis assez proche de l'opéra. C'est un endroit où je vais beaucoup. Je connais un petit peu les gens qui y travaillent, etc. C'est une institution fascinante. Après, malheureusement, j'ai pas pris beaucoup de temps pour réaliser pendant ces
dernières années.
Ouais, ces dernières années.
Vous avez envie de ça?
Ouais, je crois que ça va revenir. Ça va revenir. Là, j'avais besoin de retrouver un peu ce que j'avais besoin de dire musicalement. Mais ouais, ça va venir. J'ai tenté aussi des formes plus longues en écriture. Bon, pour l'instant, catastrophe. Mais ça va
c'est
venir.
C'est-à-dire catastrophe.
Je suis pas bon à ça pour l'instant. Mais
ah d'accord, vous n'y arrivez pas. D'accord,
ouais,
c'est pas que les projets ne se montent pas. C'est que
non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais je vais y arriver. J'ai plein de défauts, mais la résilience, ça, j'en ai. Donc j'y arriverai.
Et est-ce que vous aimez le principe de la commande?
Oui.
Oui.
Par exemple, un des travaux de commande, même si j'aime pas l'appeler comme ça ces dernières années, c'est mon travail avec Nicolas Ghesquière sur le papier, quelque chose qui est vraiment une commande, c'est-à-dire faire de la musique pour des défilés.
Oui.
En fait, c'est transformé en une collaboration créative hyper constructive de laquelle j'ai appris énormément.
Quels sont, Woodkid, les arts qui vous nourrissent le plus ?
La danse, beaucoup. Je regarde beaucoup. Ça, c'est des nouveaux sujets aussi, le rapport du corps à l'espace. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'écoute finalement assez peu de musique, pour être très honnête.
C'est pas la musique qui vous nourrit.
Non. L'art contemporain, beaucoup. Et puis les images. Les images, quelles qu'elles soient, que ce soit des stories sur Instagram, comme des peintures au musée d'Orsay. C'est-à-dire que... les images en général, on parlait de grande histoire d'amour, ça c'est une grande histoire d'amour.
Est-ce que vous avez hâte de retourner sur scène? Dites-nous juste en quelques mots peut-être les prochaines dates qui sont prévues. Il y a
un peu de tout. Oui. Il y a du Marseille, il y a de la scène musicale.
La scène musicale donc à Boulogne.
À la rentrée en février.
En février. Ouais.
Pour l'instant on en a deux.
À Marseille, vous nous dites.
Ça se passe très bien. Marseille, Fiesta des Suds, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses qui arrivent là. J'ai pas tout en tête parce qu'en fait, pour être très honnête, je me suis sorti la tête et les yeux du planning parce qu'en fait on est dans un tel flou là que je me laisse bercer en fait. Je me laisse aller. Je me prépare, je me projette, mais je pense pas planning.
Merci beaucoup Woodkid d'avoir été en direct avec nous sur France Inter ici à Lyon. Je sais que vous avez fait spécialement le déplacement pour l'émission et on en est très touchés.
Merci Anna.
Cette émission a été préparée par Élodie Royer, Maud Ventura et Camille Poux-Jalaguier. Elle a été réalisée par Clément Baudet et musicalement programmée par Djoubeka. À la technique aujourd'hui, Stéphane Foulon et Thomas Robin. Merci à notre chargée de production Sandrine Bréchaud qui continue de rendre possible notre périple. Merci beaucoup aussi aux Nuits de Fourvière, hein, Dominique Delorme et Maud Montelin pour leur accueil. Merci aussi à Valérie Samuel. Demain, retour à Paris dans le parc de la Villette avec l'écrivain Judith Pérignon. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Claire Servageant pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.